un des très grands rabbins de notre histoire, un des grands codificateurs de la loi. Il a vécu de 1135 à 1204, pour le situer très rapidement, et en particulier dans son livre Yadahazaka, qui codifie toutes les lois qui se trouvent éparses dans le Talmud, il y a, à la fin du livre, deux chapitres qui sont consacrés au Messie. Mais je vois que Ravachnet vient d'arriver, je vais donc... Dans le traité, dans le livre des juges, Shoftim, qui est le dernier livre de son grand traité, dans le chapitre des rois, Melachim, il y a les deux derniers chapitres qui sont consacrés à un roi, que j'appellerai un roi pas comme les autres, qui est le Melech HaMashiach, le roi Messie. Et ce sont donc ces chapitres que Rav Ashkenazi a choisi d'étudier avec vous, puisque dans ce chapitre se trouve condensé l'essentiel des lois, des règles qui se rapportent donc au Messie, au messianisme. Voilà donc ce que fera Rav Ashkenazi. Ce que je ferai avec vous moi-même ne sera pas le texte Maïmonide, mais nous verrons à un moment donné, Maïmonide explique que ce qui concerne l'époque messianique semble assez flou et assez contradictoire dans le Talmud, qu'il y a des discussions, Marloket, entre les sages du Talmud concernant les événements messianiques. Et j'ai donc choisi de voir avec vous un texte du Talmud qui traite justement d'un problème concernant le Messie, dans lequel se trouve apparemment toute une série d'affirmations contradictoires et incohérentes. Et je me propose donc de faire pendant deux séances avec vous ce texte de la Gemara, de façon à vous montrer ce que Maïmonide veut dire vraiment lorsque il déclare qu'il y a des divergences ou qu'il y a des discussions entre les rabbins concernant ces problèmes, et nous verrons à ce moment-là qu'il y a en fait une cohérence et ce que ça signifie. Donc pour les raisons pratiques que j'ai précisées tout à l'heure, Rav Ashkenazi fera son cours ce soir et mercredi soir, après-demain, et moi-même, je vous présenterai le texte du Talmud qui se trouve dans Sanhedrin 99a, Merci HM, demain soir et jeudi soir. Je passe le micro.
Nous allons commencer tout de suite la lecture du texte. Amalek HaMashiach, le roi Messie. En français, il faut traduire immédiatement le roi loin. C'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie de l'onction qui habilitait parmi les candidats possibles à la royauté celui qui était habilité par le prophète, comme nous l'avons vu déjà dans les études de ce matin. Amalek HaMashiach, le roi qui a reçu l'ordination, à qui la Hamot est destinée dans l'avenir, adviendra, se dressera la Hamot, arrivera. A-t-il la Hamod ou l'Arzir Montrit David et Yoshna? Ce qui signifie, il arrivera à la fin des temps de l'exil qu'un roi habilité à être roi d'Israël adviendra et restaurera la royauté de David dans son ancienneté, Yoshna. Ce qui signifie, comme cela a été dans les temps anciens. Dans les temps anciens, il y avait une royauté hébraïque. Et donc, ce que dit ici Maïmonide, en citant les sources que j'expliquerai tout à l'heure, c'est que le roi Messie dont on parle, Amalek HaMashiach, celui qui recevra l'ordination autorisée, se dressera, adviendra et restaurera la souveraineté politique d'Israël comme c'était au temps des Hébreux. Je redis la phrase. Amalek HaMashiach, Atid La'amod, להחזיר מלכות דוד ליושנה. מלכות דוד, הריבונות של דוד, c'est tout simplement, dans le vocabulaire de notre temps, la souveraineté politique du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. On veut dire ça, Amelech HaMashiach, le roi qui aura reçu l'ordination messianique, Attila Hamod, est destiné à advenir, à venir, Velaharzir Malchut David et Yoshma, et à restaurer la royauté de David comme c'était dans les temps anciens. Nous avons vécu une très longue période de l'histoire d'Israël où pendant 2000 ans, depuis l'Empire romain, il n'y avait pas de souveraineté politique du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Les mêmes Shallah Arishona, dans sa souveraineté première. Vous devinez que tout ce que je dis là, en traduisant ce que Maïmonide a écrit, est plein de problèmes. Parce que nous vivons dans une contemporanéité subite des événements auxquels nous n'étions pas préparés pendant 2000 ans. Mais je relis le texte comme il est écrit. Amelech HaMashiach, le roi Messie, Atid La'amot, est destiné à venir. ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. והרסטורי, לסוברנטה פוליטית, תספל, כמו שתק, לרויותי דוד, כמלתי נוליתן עשיין ליושנה, לממשלה הראשונה, כמו שסוברנטה אנטריאר, פרמייר. ובונה המקדש. Il construira le sanctuaire. Et tout de suite, nous sommes avertis qu'il y a des étapes dans la restauration messianique. La première étape, selon Maïmonide, je dis bien selon Maïmonide, parce que tout à l'heure, nous allons revoir ce texte d'après d'autres sources. La première étape, c'est la souveraineté politique juive sur la terre d'Israël. La deuxième étape, c'est la construction du temple. Selon Maïmonide. Et bien entendu, nous sommes avertis que Maïmonide a des sources sur lesquelles il s'appuie. J'ouvre une petite parenthèse rapide. Maïmonide a vécu en un temps où il y avait des espérances que la fin de l'exil arriverait, que la restauration politique d'Israël sur la terre d'Israël serait possible. C'était un peu avant, après l'Inquisition d'Espagne, lorsque la symbiose entre le peuple d'Israël et les nations du monde avait réussi au niveau d'une certaine culture qui était la culture espagnole, et qu'on pouvait penser que la communauté juive à travers le monde entier saurait réaliser en ce temps-là l'espérance messianique, qui d'abord se définit dans les termes des phrases que nous avons lues comme l'indépendance politique des juifs sur leur terre. Comme vous le savez, cette espérance a été démentie par l'histoire, en particulier parce que les Juifs d'Espagne ont préféré habiter le monde entier, sauf Eretz Israël. Pas tous. Quelques familles ont déjà fondé en ce temps-là des communautés séparades en Eretz Israël. Mais la majorité des Juifs d'Espagne, de tradition séparadique, ont préféré habiter la Hollande, la Turquie, les pays civilisés de l'époque. Où ils ont d'ailleurs prospéré, où ils ont fondé des communautés très riches, dans tous les sens du terme, même spirituels. Mais en ce temps-là, étant donné que la symbiose culturelle, spirituelle du peuple juif, c'est-à-dire d'Israël, avec la civilisation du temps, avait réussi, et le témoignage le plus évident, c'est ce qu'a été la grande richesse de l'âge d'or espagnol, l'âge d'or du point de vue des historiens du judaïsme, le Moyen-Âge du point de vue des historiens de l'Occident, mais c'était quand même une civilisation de formulation judéo-espagnole, c'est-à-dire judéo-non-juive, réussie. D'ailleurs, les séparadismes, comme nous disons, et juive de culture espagnole, témoigne encore aujourd'hui de la richesse de cette civilisation judéo-non-juive. Je dis bien les séfaradines, parce que nous avons l'habitude d'appeler, de nommer les juifs de rite séfarade, mais qui ne sont pas des espagnols, des séfaradines. Les séfaradines, c'était la noblesse d'Espagne. Effectivement, une symbiose très riche de juifs dans cette culture de l'époque de l'âge d'or espagnol avait réussi, et c'était sans doute le temps, je paraphrase, vous revenez au texte, où il fallait que le peuple d'Israël décide de mettre fin à son exil pour revenir en Israël, à Jérusalem, enrichi de la culture du temps, enrichi de l'expérience de sa relation avec la civilisation universelle du temps, de telle sorte que le projet de l'histoire d'Israël selon la Bible se réalise déjà. Or, les Juifs séfaradim ont préféré, alors que leur diaspora en Espagne, et l'Espagne, c'était pas seulement l'Espagne des vacances que nous connaissons aujourd'hui, c'était la civilisation de ce temps-là. Les Juifs séfaradim ont préféré féconder le reste de l'univers, comme nous disons en termes de spiritualité universelle, cosmopolite, plutôt que de revenir à Jérusalem. Et Maïmonide, comme d'autres de ce temps, les grands d'Israël de ce temps, ont pris acte que le peuple juif n'était pas décidé à mettre fin à son exil. Étant donné les catastrophes historiques, socio-historiques de ce temps-là, pour le peuple juif, il était donc nécessaire de faire un bilan des croyances messianiques à cette époque. Je vous parle donc d'une époque qui pour nous est une sorte de préhistoire, mais qui a servi quand même de matrice d'identité à toute une partie du peuple juif qui se relie à ses sources du judaïsme séfarade. Et je voudrais expliquer qu'il ne s'agit pas du judaïsme espagnol. Il s'agit du judaïsme judéo-arabe de cette époque qui a été ensuite traduit en espagnol. Lorsque les chrétiens ont reconquis l'Espagne, la péninsule ibérique de façon générale, parce que les communautés portugaises étaient tout autant vivantes et importantes que les communautés proprement espagnoles, alors les rabbins ont pris acte que cela aurait pu être un temps messianique dans le sens de la fin de l'époque de l'exil, le bilan fait d'une symbiose réussie à cette époque entre l'identité hébraïque du peuple juif dispersé et la civilisation du temps qui était de style espagnol. Et vous savez à quel point l'expansion de la culture espagnole a été, avec ses défauts et ses qualités, je devrais dire ses qualités et ses défauts, fécondante pour l'histoire de l'humanité tout entière. Cela s'est passé en style de civilisation occidentale chrétienne. Mais il n'y a pas de doute que la dimension culturelle hispanique a été très importante dans l'histoire de l'humanité tout entière. On ne peut que prendre acte de l'acte de décès des grandes civilisations préhispaniques de l'Amérique centrale, et aussi jusqu'à l'Inde d'ailleurs avec les Portugais. Le contact entre l'Occident chrétien hispanique et la civilisation humaine a été catastrophique. Ceci dit, cela aurait pu être un temps eschatologique bienheureux de fécondité humaniste, dans le sens noble du terme, cela a échoué. C'est à cette époque que Maïmonide écrit. Et il faut sans doute réintégrer les harmoniques affectives de l'histoire juive, de cette sorte de constat d'une possibilité d'un temps messianique réussi et qui a échoué, parce que les juifs de cette époque ont préféré féconder les comptoirs des sociétés de ce temps, plutôt que de revenir à Jérusalem, construire le temple dont parle Maïmonide. Première étape, restaurer la souveraineté politique juive en Israël. Deuxième étape, construire le temple. Je relis la phrase, Amelech HaMashiach, le roi que l'on appelle Messie. Et Messie, cela signifie en hébreu, celui qui a reçu l'ordination et la consécration prophétique de l'authenticité de la royauté d'Israël. Attila Hamod est destiné à advenir. Littéralement, la Hamod en hébreu, ça veut dire être debout. La Hamod. Velahazir Malchut David est de restaurer la royauté de David. David, ça veut dire la royauté hébraïque du temps de la Bible. Léoshna, comme elle était dans le temps ancien. Là, il y a une allusion à un idiome hébraïque qui signifie lorsque une valeur ancienne a été perdue et qu'elle est restaurée, alors on dit ramener la couronne dans son temps ancien. Léahzir Atara Léoshna. Ancien, ça veut dire pas comme elle était dans le temps ancien, de façon anachronique, préhistorique, mais de la restaurer aujourd'hui, maintenant et pour l'avenir, comme elle était dans sa valeur dans les temps anciens. Deuxième ligne, la même Shallah, Arishana. Je pense qu'il vous manque un point dans la lettre E, que je vérifie. Oui, mais dans le premier mot de la deuxième ligne, vous ajoutez un He, un dagesh dans le hé final. La même Inch'Allah, Arishona. Donc, dans sa souveraineté à elle, la même Inch'Allah.
Mais dans les deux, il y a
une certaine. Non, le hé de la fin.
C'est vrai.
Dans le hé de même Inch'Allah, pas d'Arishona.
Même
Inch'Allah, Arishona. Oui, là vous avez une édition. Je dois dire que l'édition qu'on vous a photocopiée, c'est l'édition scolaire des écoles primaires en Israël. Il y a des fautes.
Primaire.
Il y a
des fautes primaires.
Donc, sa souveraineté ancienne, première. Vous prenez un village et construire le sanctuaire. Et là, il faudrait jouer une parenthèse très longue pour vous dire ce que représente pour toutes les nations du monde le sanctuaire de Jérusalem. Mais c'est la deuxième étape du programme. Vous savez que nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème politique, historique et immédiat. Parce que le rapport de Mohamed a commencé à formuler pour notre temps culturel moderne l'enseignement de la Torah en Israël. Il a eu à avoir des rencontres avec des dignitaires musulmans de Jérusalem. Vous savez que les musulmans sont des conquérants à Jérusalem depuis 8 siècles. Avant, il y avait les Perses, les Turcs, les chrétiens. Et depuis 2000 ans, nous étions exilés de Jérusalem. Depuis 800 ans, il y a eu une invasion arabe sur la terre d'Israël. D'abord les Turcs, ensuite les Arabes, à proprement parler. L'inverse, excusez-moi. D'abord les Arabes, ensuite les Turcs. Pour nous, c'est la même chose. Et, disons, une domination musulmane depuis 800 ans sur la terre d'Israël. Eux disent, et c'est en partie vrai, que le pays était vide. Il était vide de juifs. Comme ils sont aussi des descendants d'Abraham, il fallait bien que ce pays soit occupé par une sainteté abrahamique. Et c'est vrai. Entre-temps, les chrétiens étaient venus, on s'est arrangés, ils se sont arrangés avec eux. Mais finalement, le problème concret dont parle Maïmonide, c'est qu'il faut d'abord restaurer la souveraineté politique d'Israël de telle sorte qu'il soit possible de construire le temple de Jérusalem pour toutes les nations du monde, comme disent les prophètes de la Bible. Et nous sommes encore occupés à des problèmes immédiats, contingents, avec la nation arabe. Et vous savez que la nation arabe, c'est 22 États musulmans, plus tout l'islam non arabe. Et avec les alliés chrétiens, et communistes, soviétiques, chinois. Alors, vous voyez à quel point ce Maïmonide-là, dès les premières phrases, est très grand. parce qu'il formule la foi d'Israël, qui a été la fidélité d'Israël à son identité pendant 2000 ans. Il arrivera, premièrement, que la souveraineté politique d'Israël sera restaurée à Jérusalem. Deuxièmement, on construira. Pourquoi ça fait problème? Parce que sur la montagne du Temple, il y a une mosquée, tout simplement. Et que ça ne se fait pas dans les mœurs de l'ONU de détruire une mosquée et construire un temple juif. Ça se fait. Alors on attend. Je vais vous citer ce que disait le Rav Kook. On n'attend pas des événements eschatologiques qui sont d'ailleurs prévus. Que la montagne des Oliviers entrera en transe. Il y aura un tremblement, vous connaissez ça. Un tremblement de terre, content de se comprendre, Dieu préserve. Ça se passera plus simplement. Le Rav Kook, il y a déjà le père, une quarantaine d'années, a été appelé à des discussions avec les Anglais, puisque vous savez qu'après les Turcs, il y a eu les Britanniques. Ils n'étaient pas tous Anglais, mais ils étaient Britanniques. Il dit comment, vous les sionistes, vous voulez revenir à Jérusalem, qu'est-ce qu'on va faire avec les musulmans? Et demandez quoi? Il y a une mosquée. Et alors? Grâce à Dieu, dans une mosquée, il n'y a pas d'idole. Et s'il y avait la paix politique entre les juifs et les musulmans, nous, les juifs d'Israël, de Jérusalem, nous pourrions dire notre prière dans la mosquée, sur la montagne du Temple. C'est cachère. Une église, c'est pas cachère. Vous voyez la chance que nous avons, il n'y a que les musulmans à Jérusalem. Parce que les musulmans sont de vrais monothéistes. Donc on pourrait, en principe, s'il n'y avait pas d'empêchement politique, nous dire notre prière sur la montagne. Vous savez ce que décide le gouvernement israélien? À cause de l'ONU, c'est-à-dire des pays chrétiens, les juifs sont interdits de séjour sur la montagne du Temple à Jérusalem. Et encore, c'est un gouvernement soi-disant, ceux qui calomnient disent comme ça, nationaliste. Vous avez vu un juif nationaliste? Nous avons adopté la nationalité du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire un juif nationaliste? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, nous sommes à ce stade-là, mais c'est Maïmonide qui parle. Et il construira le temple. Où? Sur la montagne du Temple. Qu'est-ce qu'on va faire avec la mosquée? Vous avez un avis? Nous avons un avis. Bon, il y a une programmation prophétique, les choses arrivent en leur temps. Alors donc, je vous racontais que le Rav Kook était convoqué à une réunion du Haut Commissariat britannique en Palestine. On dit comment? Les sionistes, et toi le rabbin, tu dis que c'est ta chair? Et qu'est-ce qu'on va faire avec la mosquée? Il a dit, vous avez entendu parler d'un rêve de l'humanité d'arriver sur la Lune. Il y a le temps. Entre temps, on est arrivé sur la Lune. On est aussi arrivé à Jérusalem. Il y a le temps, mais ça arrive. Comment? Pas ton avis. On redit Maïmonide, il rassemblera, il ramènera, vous êtes exilés, c'est appelé, il ramènera la souveraineté d'Israël comme au temps du roi David. Vous savez que nous avons des cours le matin sur texte, on va faire un peu plus en détail. Alors je parle souvent de coïncidences, et il faut pas prendre des coïncidences pour plus que ce que c'est, des coïncidences. Vous savez que le premier chef du gouvernement d'Israël s'appelait David. Ben Gurion, on en a fait un aéroport. La Torah vient du ciel. Ben Gurion, qui disent. Tout ça, c'est des coïncidences. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, bonnet à Mikdash. Alors, il ne faut pas être trop inquiet. Par quelle conviction politique le temple sera reconstruit, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que dit Maïmonide? Deuxième étape, le temple. Vous voyez, je parle plus de ça. Je pense, en tout cas, que ça dépend du mérite des Juifs. En 48, nous sommes arrivés devant la muraille de Jérusalem. On ne peut pas aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manquait 200 soldats. Si nous avions eu 200 soldats de plus, il n'y avait pas de problème de Jérusalem de l'Est, comme disent les gens de l'Est. Et les choses sont comme je vous dis. Il manquait 200 soldats. Une khativa, comme on dit ça, une unité d'un bataillon, pas plus. C'était en 48. En 67, nous sommes arrivés sur la montagne du Temple. Et le premier rabbin qui a dit Kaddish, c'était mon maître là-bas. Et on est redescendu, deux jours après. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien a décidé qu'on redescendait la montagne du Temple. Parce que l'ONU était contre l'idée que la montagne du Temple, ce serait peut-être un lieu saint d'Israël. Imaginez l'énormité de l'hypothèse. La montagne du Temple de Jérusalem, un lieu saint d'Israël. Il faudrait que toutes les nations du monde recommencent à voyager. C'est-à-dire s'inscrivent à l'agence. Vous savez que c'est une agence de voyage. Parce que les Chinois ne sont pas chez eux en Chine. Les Français ne sont chez eux qu'en Île-de-France. Et les Américains sûrement. Alors, si on adopte le principe que les Juifs sont chez eux à Jérusalem, le monde entier commence à voyager partout. Ça coûte trop cher, les Juifs ne sont pas chez eux à Jérusalem. C'est clair. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Et moi, j'aime beaucoup l'île de France. C'est le pays des Français. Pas plus. Pas moins, mais pas plus. Alors, imaginez qu'on adopte le principe de la politique en politique internationale que les hommes sont chez eux, chez eux. Il n'y a que les Juifs qui sont chez eux, à Jérusalem. Il n'y a pas d'autre exemple. Tout le reste, c'est le fruit de conquête, de vol, de rapine, de, comment on dit ça, d'excursion militaire. Alors vous voyez que Maïmonide est très courageux. D'abord, un gouvernement juif à Jérusalem. Je répète, les mêmes Inch'Allah à Rishona. Et ça fait 2000 ans que nous n'avons pas eu de souveraineté juive à Jérusalem. Deuxième étape, il construit le temple. Comment? Eh bien, c'est Maïmonide qui l'a dit. Je vais raconter une petite histoire. Juste avant 67, la guerre des six jours, qui a duré 3 ans, et vous appelez ça la guerre des six jours. Elle a duré 3 ans. Juste avant 67, lorsqu'on parlait de Jérusalem, la montagne du Temple, pour nous c'était mythique, sur une autre planète, loin, loin, loin. Jérusalem entre les mains des Juifs. Qu'est-ce que vont faire les Juifs en Judée? Qu'est-ce que vont faire les Auvergnats en Auvergne? Et chaque année, après ça, à la fête de Pâques, on montait dans la ville juive, qui était en dehors de la ville, juste en haut de la plus haute maison juive, pour voir de loin la montagne du Temple. Parce que nous avons une prière à dire toujours. C'était très très bien. Et je me rappelle encore, en souvenir personnel, qu'une fois, j'ai vu un autobus jordanien à l'horizon. On regardait ça avec des jumelles. Jérusalem, Jérusalem. C'est qu'on a dit Jérusalem 2000 ans. Et jusqu'en 48, pardon, depuis 48 jusqu'en 63, pendant 19 ans, en hébreu, Jérusalem, c'était très mal. En Jordanie. Et puis subitement, Jérusalem nous a été rendu. Comment? Peu importe, c'est de l'histoire anecdotique. Il y avait une menace de guerre avec la Syrie au nord, l'Égypte au sud. L'ONU, enfin le gouvernement israélien, au temps de Lévi Eshkol, à travers l'ONU, a téléphoné plusieurs fois au roi Hussein de Jordanie pour dire, surtout ne bouge pas. Nous avons une affaire avec les Syriens et les Égyptiens, vous les Jordaniens, bougez. Et le roi Hussein a dit non, moi je suis un musulman pieux, je sais que Jérusalem vous appartient, j'attaque au canon et je vous rends la ville. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire de manière inouïe, inattendue. Le lendemain, nous étions dans Jérusalem. Au bout de 2000 ans, après les occupations perses, etc., britanniques, 2000 ans, Jordanie. Et nous disons la nuit. Alors on relit mal. Première fois. Amelech HaMashiach, le roi Messie, Atid La'amo, finira par se dresser. Chaque fois je nuance un peu, mais c'est pour lire. Ou l'Achzir Malchut David Yoshna et restaurer la royauté, c'est-à-dire la souveraineté politique de David, dans son ancienne. C'est-à-dire le Yoshna, comme elle était avant. Avant c'est quoi? Avant c'est le temps hébraïque, c'est le temps de la Bible. Le même Shalach Arishma. Donc, sa souveraineté première. Vous bonnez un Amidash qui construira le sanctuaire. Vous savez ce que la notion du temple de Jérusalem représente pour toute l'humanité qui reçoit son inspiration spirituelle de la Bible. Et lorsque les Juifs disent « Nous allons reconstruire le temple », alors le monde entier réagit. Vous voulez aller sur la Lune ? Je pense que vous avez compris. On ira sur la Lune. Et rassemblera les exilés d'Israël. Et là, il y a un problème et une difficulté. Si le roi Messie doit restaurer la souveraineté politique juive sur Israël, sur la terre d'Israël, et construire le temple, et après seulement rassembler les exilés, avec qui il va faire ça? C'est faire, c'est écrit comme ça. Alors il faut que vous sachiez, les Nitzrei d'Israël, ce que j'ai traduit par les exilés d'Israël, c'est pas les Juifs. Nitzrei Israël, c'est pas les collègues d'Israël. Exil, ça se dit Galou. Les exilés d'Israël, les collègues d'Israël, c'est les Juifs. Ceux qui se connaissent comme tels, ceux qui sont reconnus comme tels, les descendants du royaume de Juda. Eux s'appellent les Golim, les gens de l'exil. Et les Dahim, les Très Israël, c'est les 10 tribus perdues du royaume d'Israël, qui était le royaume du nord, pas le royaume du sud qui s'appelait Juda. Les Yehudim, c'est les Juifs. Les Très Israël, c'est les descendants des 10 tribus d'Israël, dont on fait semblant qu'on ne sait pas où ils sont. Et je vais vous dire où ils sont. Mais ils sont partout. Vous avez lu un livre de Pierre Fitt ou Cara Roger? Non. Qui s'appelle Les Juifs, moi je vous dis. C'est un exemple très atténué de la réalité. Ces descendants des 10 tribus perdues d'Israël sont partout. Ce sont eux, la maison de Joseph, qui féconde l'humanité entière. Ils sont, on ne sait pas où, mais c'est eux qui disent, qui lisent. Je ne voudrais pas en parler d'un point de vue historique précis, comme nous avons déjà. Depuis les travaux du premier président de l'État d'Israël, Ben Tzvi, des ouvrages importants de monographie sur tous les hommes et les femmes qui, dans le monde entier, ont des souvenirs de l'identité hébraïque. Et je ne parle pas des marins, les Anoussim, ceux d'Espagne, du Portugal et donc d'Amérique du Sud, énormément, même chez les Indiens d'Amérique du Sud, qui se rappellent de souvenirs de rites juifs. Ceux-là sont des Juifs qui ont été, à la suite de l'histoire, et ça fait des siècles déjà, convertis de force, ou assimilés, chez les non-juifs, mais qui ont gardé, quoi que ce soit, des traces de leur identité juive. Je parle de toute autre chose. Vous savez que, après le temps du roi David et du roi Salomon, dans les temps bibliques, il y a eu un schisme dans la nation d'Israël. Et nous étudions ce problème dans d'autres cours sur Terre le matin. Et 10 tribus, sous la direction de la tribu d'Éphraïm, les descendants de Joseph, ont fondé le royaume d'Israël de l'Antiquité biblique, qui avait pour capitale Samarie, Shomron. Alors que 2 tribus et demie d'ailleurs, Yehuda, Binyamin et Chetichet et Menaché, ont fondé le royaume du sud avec capitale Jérusalem et qui s'est appelé le royaume de Juda. Donc il y avait le royaume de Juda, dont les exilés ont été les Juifs. Le mot de Juif, ça veut dire judéen. À travers le latin, le mot de judéen est devenu juif en français. Mais si par exemple je vous cite en espagnol, Rodillo, ça veut dire judéen. En Italie, on les appelait les Hébreos. Parce que les exilés, les premières communautés d'exilés d'Italie n'étaient pas des Juifs, mais des descendants des 10 tribus, des exilés du premier temple. Ils sont arrivés en Italie avant les Juifs, avant les Juifs. C'est la raison pour laquelle les Italiens, enfin les Latins déjà, les Romains, ils appelaient les Hébreux. Les Hébreux. Quoi qu'il en soit, le temps était très long, il y a eu des brassages de population. Nous savons que 10 des 12 tribus d'Israël ont été déportées et se sont très rapidement assimilées et fondues dans le paysage des civilisations du temps babylonien, avant la civilisation romaine. Et nous avons, bon, je vous ai cité Ben Tzvi, il y a depuis, beaucoup d'équipes d'ethnologues israéliens. Sont, je vous dis, un secret un peu militaire, mais vous savez, en Israël, les secrets militaires sont des secrets publics. Ils sont en Afghanistan, au Pakistan, dans le nord de l'Inde. Il ne s'agit pas du tout des Éthiopiens, c'est encore un autre problème, les Falachas, c'est rien à voir. Et il y a à peu près 30 millions, 35 millions peut-être, d'Afghanistan, pakistanais, indiens, de rites musulmans, un peu une secte différente des musulmans ou chiites ou sunnites, ou même soufis, et qui ont gardé des traditions hébraïques. Et nous savons, par les textes de la Mishnah, par les textes du Midrash, que les 10 tribus perdues se trouvaient dans ces régions-là. Or, la grande surprise, c'est les noms des tribus des Afghans. Retenez que ce n'est sans doute pas par hasard que c'est en Afghanistan que la résistance contre l'ennemi d'Israël, c'est-à-dire la Russie soviétique. Et leur nom, c'est tout simplement Yosef, Issachar, Zvulun, etc. Ils ont d'ailleurs leur propre tradition de royauté hébraïque, je ne dis pas juive. Ce sont des tribus d'Israël d'avant le schisme qui a fait les juifs, qui sont les descendants du royaume de Juda. Ils s'appellent tout simplement, ils ne parlent pas l'arabe, puisqu'ils ont leur propre langage afghan, pakistanais. Je ne suis pas tellement spécialiste, mais j'ai plusieurs de mes élèves dans ces équipes, alors de temps en temps je reçois des films et surtout des photos de type juif, de juifs et de juives, enfin je veux dire d'afghans, mais de type hébraïque. Sémites d'un temps ancien, plus ancien que les juifs. Hébraïque, plus ancien que les juifs. Ils nous gardent avec une fidélité extraordinaire des bribes de rites. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les maranes. Les maranes, c'est beaucoup plus postérieur et c'est autre chose. Et il s'agit de Nitré Israël, si vous recodez ce que dit Maïmonide ici, avec les versets de la Bible et des prophètes, d'après le schisme, d'après la perte des 10 tribus du royaume du Nord, vous saurez que chaque fois que le mot de Gola, l'exil, est employé, ça concerne les descendants du royaume de Juda. Nidachim, les repoussés, Nidachim, il n'y a même pas de mort, c'est tout. Ceux qui sont dehors, ça, c'est les 10 tribus du royaume du Nord. Donc, il n'y a pas de difficulté. Le roi Messie dont il est parlé, c'est un juif. Et celui-là restaurera la souveraineté de Juda sur Israël. Les juifs, comme on dit en français, reconstruira le temple et ramènera les exilés du royaume du Nord. C'est-à-dire, tous ceux qui, à travers l'espace et le temps, savent qu'ils ont un lien de quelque nature que ce soit, avec l'identité hébraïque, quand je dis de quelle nature que ce soit, c'est à beaucoup de registres, et qui reviendront lorsque les Juifs auront restauré leur nation. Ça, c'est les Nidachim, c'est pas les Golim. Les Golim, et je peux vous parler un peu en hébreu, peut-être que vous comprendrez mieux. Et nous, chez Nigal, ceux qui ont été exilés, qui se connaissent comme tels, qui sont connus comme tels, c'est les Juifs. Mais j'aurais pu dire les Israélites avant le XVIIIe siècle, avant que la communauté des Juifs de France se soit prise pour des Français de religion israélite. Alors j'aurais dit les Israélites. Je ne peux pas dire les Israéliens, c'est autre chose. Les membres de ce royaume du Nord qui s'appelait Israël et qui a été perdu dans la civilisation babylonienne avant la civilisation romaine. Nous avons donc, comme je vous dis, des relations avec ces Bnei Youssouf, comme ils se disent, les fils de Joseph, et qui sont 30, 35 millions, peut-être beaucoup plus. Et nous avons en particulier un enseignement du Gaon de Vilna. Il arrivera que les descendants de cette tribu d'Israël reviendront en Israël avant les Juifs. Alors vous allez me dire, mais les Juifs sont déjà revenus. Oui, un cinquième des Juifs est revenu. Alors nous préparons Israël pour les Nitrés Israël, c'est-à-dire les descendants des 10 tribus, et s'il reste de la place, pourquoi pas, vous êtes bienvenus. Ça y est, ça va. Alors, trois étapes. Les Juifs reviennent en Israël. Les Juifs, les descendants du royaume de Juda, restaurent la souveraineté juive en Israël, en hébreu. Construisent le temple. Comment ? On s'arrangerait avec l'ONU. Et ensuite, ramènent les exilés d'Israël. J'ai dit exilés en français, mais vous avez compris la différence. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment midahim. Et on ne sait pas où ils sont. On sait où ils sont. Ils savent où ils sont. Mais ils savent quand même. Ce sont les trois étapes. Sinon, il y aurait une énigme. Comment le Messie peut restaurer la souveraineté d'Israël comme au temps du roi David ? Et si je vous ai parlé de David Ben-Gurion, c'est parce que le bon Dieu est plein d'humour. Il nous a donné un chef de gouvernement qui s'appelait David, pour faire plaisir à Maïmoudi. Sinon, ça n'aurait eu aucune importance. Il s'appelle Jésus. Et je pense à quelque chose juste avant. Non, non, mais juste avant. Oui, et donc les Juifs créent en Israël, restaure la souveraineté politique, ensuite construisent le temple. Vous allez me dire comment ? Je ne sais pas. Maïmonide, il va le dire, en clair. Personne ne sait. Je vous ai donné un exemple comment nous avons eu Jérusalem. Personne ne savait la veille. Vous savez que Teddy Colette, qui est le maire de Jérusalem, qui n'est pas un juif religieux, enfin, je ne sais pas s'il est anti-religieux, d'ailleurs, s'il était religieux, il ne serait pas probablement religieux de la religion juive, peu importe. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la restauration de la nation hébraïque. A téléphoné au roi Hussein, et nous avons l'enregistrement en cassette. On se réjouit tous les anniversaires de jours indépendants, on écoute. Il a téléphoné au roi Hussein par l'entremise des officiers de l'ONU, sur le Harmon Anati. Je ne sais pas si vous connaissez Jérusalem, la montagne où il y avait l'ONU. Il téléphone à Hussein, il lui dit, en un très bel arabe, d'accent lituanien, il a appris l'arabe. Pas pour comprendre les Sfaradim, pour comprendre les Arabes. Et, il dit, qu'est-ce que tu veux ? Que moi, Teddy Colette, je sois le maire de la Jérusalem réunifiée, mais c'est mon rêve depuis 2000 ans. Et Hussein qui répond, je t'entends pas. Et Teddy Colette.